3 dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. 3 dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. 3 dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de la grenouille. C'est le deuxième numéro de l'émission qui vous aide à rester droit dans vos bottes. Aujourd'hui, il s'agit de rester droit dans ses bottes pendant les manifestations. Parce qu'un rapport d'Amnesty International, publié fin septembre cette année, s'inquiète de l'utilisation de la loi comme arme de répression des manifestants et manifestantes. Pour en parler, nous serons au téléphone avec Anne-Sophie Saint-Père, une des rédactrices du rapport dont je parlais. Anne-Sophie réagira au témoignage de Gaël, un Marseillais qui s'est retrouvé récemment nassé pendant plus de 4 heures. Attention, j'ai bien dit nassé et pas massé. C'est pas du tout le même effet sur la tension musculaire. Et puis, tant qu'à faire, un projet de loi sur la sécurité globale prévoit de mettre des yeux partout dans le ciel pendant les manifestations. Et comme ces yeux sont un peu louches, on tirera ça au clair avec Félix Tréguer. Mais avant tout ça, petit retour historique sur le droit de manifester. Remontons à la fameuse année 1789. 1789, la Révolution française, la prise de la Bastille. Mais c'est aussi la loi martiale du 21 octobre 1789 qui sanctionne par la peine de mort les rassemblements séditieux et d'émeutes. À partir de là, et particulièrement au 19e siècle, on a des lois ou des textes réglementaires qui viennent régulièrement soit restreindre, soit renforcer le droit de manifester. Par exemple, la loi du 27 juillet 1789 qui criminalise, sous les termes d'attroupement séditieux, tout rassemblement de plus de 15 personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement. Donc, qui clairement sanctionne le pouvoir d'opposition ou de critique. Petit assouplissement le 3 septembre 1791, puisque la Constitution garantit aux citoyens la liberté de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police. Mais, le 10 avril 1838, la loi précise que toute personne qui formeront des attroupements sur la place ou la voie publique seront tenues de se disperser à la première sommation des préfets, sous-préfets, maires, adjoints, magistrats, officiers civils chargés de police judiciaire. Le 7 juin 1848, la loi organise la répression des attroupements d'individus armés ou susceptibles de troubler la paix publique. En 1884 et 1907, des débats à la Chambre des députés posent la question du droit de manifester. Et en 1907, Georges Clemenceau dit « Je ne suis pas bien sûr qu'il y ait un droit de manifestation, mais je suis d'avis cependant qu'il peut et qu'il doit y avoir une tolérance de manifestation » et d'appeler les organisations syndicales et politiques à mieux encadrer les manifestations et à les organiser en lien avec l'autorité publique. La manifestation apparaît donc moins comme un droit que comme une pratique de fait soumise à tolérance de la part de l'administration. Les pouvoirs publics la regardent avec méfiance, craignant toujours une dérive insurrectionnelle. Le décret-loi du 25 octobre 1935, adopté dans le contexte des manifestations de rue des ligues d'extrême droite, réglemente la manifestation en imposant notamment une déclaration préalable. Donc c'est de 1935 que date la déclaration préalable des manifestations. La liberté de manifestation n'est donc pas condamnée, mais rien ne la consacre et ne la garantit pour autant. La liberté de manifestation reste précaire dans son principe et fortement encadrée dans sa pratique. On a deux tentatives de constitutionnaliser le droit de manifester en 1946 et en 1977, mais ces tentatives échouent. Le 4 novembre 1950, la Convention européenne des droits de l'homme dispose dans son article 9 que, dans une société démocratique, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des libertés d'autrui. Enfin, le 18 juillet 1995, le Conseil constitutionnel reconnaît que la liberté de manifester est une composante majeure de la liberté d'expression. Donc je répète, la liberté de manifester est une composante majeure de la liberté d'expression. Alors Gaël, il semble que la liberté d'expression, le 24 octobre dernier à Marseille, ait été malmenée. Que s'est-il passé ?
Alors, le 24 octobre, nous étions à une marche qui s'intitulait « Justice et vérité pour Zineb Redouane », 2 ans déjà. Marche assez classique à Marseille qui a débuté sur le Vieux-Port. Assez classique, il y avait déjà un dispositif policier important, des drones notamment aussi. Et on a été menés et dirigés sur toute la Canebière et repoussés légèrement sur toute la Canebière. Nous sommes passés devant l'ancienne maison de Zineb Redouane, rue des Feuillants à Noailles.
Alors, juste Gaël, pardon, je vous interromps. Est-ce que vous pouvez juste nous reclasser, nous dire qui est Zineb Redouane et dans quel contexte est-ce que s'est passée cette manifestation ?
Alors, Zineb Redouane était une octogénaire, qui est décédée des suites de tirs lacrymogènes en décembre 2018. C'était l'acte 3 des Gilets jaunes et les manifs de colère suite aux effondrements de Noailles. Donc c'est dans ce contexte-là qu'elle a reçu, qu'elle a été heurtée par des coups de gaz lacrymogène. Cette dame n'était pas présente à la manifestation. Elle habitait au 4e étage de son immeuble. Elle a ouvert les fenêtres et elle a reçu des tirs lacrymogènes. Voilà. Donc une enquête a été mise en place. Il y a même 2 enquêtes. Une enquête en France et une enquête en Algérie. En vérité, sans revenir sur le fond, il y a plusieurs problèmes qui ont été soulevés, notamment la présence de policiers qui seraient venus effacer les preuves dans le domicile de Zineb Redouane, et notamment la présence du numéro 2 du parquet, M. André Ribes. Cette enquête a d'ailleurs été dépaysée à Lyon, d'ailleurs qu'elle n'est plus traitée à Marseille, mais elle a été dépaysée à Lyon. Et pour des éléments un peu plus récents, le 11 juin 2020, il y a eu un rapport d'expertise balistique qui va disculper la police. Voilà. Donc la manifestation, elle vient un peu dans ce contexte-là, demandant que justice soit faite et que du coup la procédure soit pour se poursuivre. Voilà.
Merci.
Donc on va continuer la manifestation. On arrive au niveau des réformés et on nous pousse légèrement en direction du boulevard Roosevelt. Et au niveau du boulevard Roosevelt, on va dire... Alors pour les non-marseillais, mais ça fait à peu près 200 mètres, on va être nassé, en fait bloqué, pendant plus de 4 heures en l'occurrence. Voilà. Et ce que va faire la police, c'est nous expliquer que cette manifestation est illégale parce qu'elle n'a pas été déclarée. Donc ça, c'est ce qu'on nous annonce au microphone.
Okay. Voilà.
Peuvent sortir les personnes qui veulent bien montrer leur identité, qui peuvent ou qui veulent montrer leur identité. Donc certaines vont décider de sortir en montrant leur identité, en la donnant. Et une grande partie d'entre elles, on était à peu près 200 sur la manifestation, on va dire qu'on en reste à peu près 100-150 durant les 4 heures dans la NAS. Nous décidons donc de ne pas donner notre identité et donc de rester présent dans la NAS. Alors pourquoi ? Parce que certaines personnes n'ont pas moyen de donner leur identité, n'ont pas de papier ou ne veulent pas le faire. C'est une décision collective qui a été prise. Ensuite, je vous passe les détails. Hein,
J'ai entendu dire aussi qu'en dehors de ça, de pas vouloir, il y avait aussi une volonté d'être en solidarité justement avec les personnes qui, elles, n'avaient pas de papier.
C'est ça. Quand je dis ne peuvent pas, c'est qu'elles n'ont pas de papier et donc encourent un risque.
Oui.
Ce qui se joue, c'est qu'en fait, on est dans le cadre d'une interpellation. Et une interpellation, elle ne peut pas durer plus de 4 heures, sans quoi il faut notifier une garde à vue. Donc tout le jeu est en fait de nous maintenir durant 4 heures. Et nous, pour nous, le suspense, c'était aussi de savoir est-ce qu'on allait être placé en garde à vue ou pas. Voilà.
Okay.
Ce qui s'est ensuite déroulé, donc effectivement, on a eu le temps de discuter, de se rencontrer, voire même de jouer. Mais là, au final... Au bout des 4 heures, nous sommes sortis. Donc, il y a eu, je ne l'ai pas vécu directement, mais une personne s'est fait un peu le porte-parole, a discuté avec le commandant des chefs de police, et on a obtenu de sortir 5 par 5, sans contrôle d'identité. Voilà. Alors,
mais il semble qu'il y ait eu aussi des contrôles d'identité ciblés à un moment donné.
Voilà. Du coup, il y a eu des personnes à l'intérieur donc, du coup, qui se sont fait sortir. Il y a eu des contrôles aussi à l'extérieur. Aussi par ailleurs, il y a quelqu'un qui a fini en garde à vue pour nous avoir aidés, qui a balancé de la nourriture par-dessus la NAS.
Donc il faisait pas partie de la manifestation qui était autour, c'est ça ?
Voilà, qui était autour. Et cette personne-là, elle a fini en garde à vue, par exemple. Et il y a eu des contrôles ciblés par ailleurs. Voilà.
Elle a passé combien de temps en garde à vue ?
24 heures, je crois.
24 heures. Ok. Merci beaucoup Gaëlle. Donc je note aussi qu'il y avait donc des drones hein, pendant cette manifestation qui vous surveillaient déjà. D'accord. Alors on a au téléphone Anne-Sophie Saint-Père. Hein. Anne-Sophie, vous m'entendez ?
Oui, tout à fait, je vous entends.
Oui, bonjour Anne-Sophie. Donc vous êtes chargée de plaidoyer liberté au sein d'Amnesty International et vous êtes une des co-rédactrices du rapport paru en septembre dernier qui s'intitule « La loi comme arme de répression des manifestants pacifiques ». Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler brièvement ce qu'est Amnesty International ?
Alors Amnesty International, on est une organisation internationale de défense des droits humains. On se base sur le droit international relatif aux droits humains, donc ce sera la Convention européenne des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont les textes qui engagent la France. Hein. La France a signé et ratifié un grand nombre de traités de protection des droits humains. On travaille sur différents sujets, des droits des migrants à la responsabilité des entreprises et également sur tous les enjeux de violence policière, mais également de droit de manifester, puisque, comme vous l'avez rappelé, le droit de manifester, c'est un composant essentiel de la liberté d'expression. Et donc, c'est ce qu'on va appeler le droit à la liberté de réunion pacifique.
Merci Anne-Sophie. Le rapport est illustré de plusieurs témoignages de manifestants, dont certains propos se rapprochent du témoignage de Gaëlle. Qu'est-ce que vous retenez de ce témoignage ?
Effectivement, c'est un témoignage qui est relativement classique. Un élément qui est intéressant, c'est que on ne sait pas trop bien pourquoi la NAS a été mise en place, puisque apparemment, il a été dit que la manifestation était illégale, qu'elle n'était pas déclarée, donc c'est ce qui aurait provoqué la NAS. Donc d'une part, en fait, en droit international, les manifestations n'ont pas à être déclarées. Elles peuvent l'être, évidemment, mais elles n'ont pas à être présumées illégales parce qu'elles n'ont pas été déclarées. Il faut qu'il y ait de la place pour des manifestations spontanées. Donc il n'y a pas à avoir à demander systématiquement aux autorités en amont. Et puis, par ailleurs, il y a la question de la NAS qui est souvent apparue dans les témoignages de nos rapports. Et nous-mêmes, on l'a vécu hein, en tant qu'observateur d'Amnesty International. On a également été NASé plusieurs heures lors du sommet, contre-sommet du G7 autour de Biarritz. Et c'est très problématique parce que souvent, c'est sous prétexte de contrôle d'identité. Bon, nous, à la fin, personne n'a contrôlé nos identités. Et en fait, on voyait plutôt ça comme une entrave au droit de manifester pacifiquement.
Je crois que Gaëlle voulait réagir.
Juste un élément de contexte que j'ai pas pu donner, c'est que le jour même, en fait, le Premier ministre était à Marseille, également, en visite dans les hôpitaux, puis après auprès de la maire de Marseille. Et donc, il y a clairement un contexte politique, on va dire, défavorable aux manifestations. Je pense qu'il faut le souligner.
Merci Gaëlle. Mais alors juste du coup, Anne-Sophie, sur la question de la NAS, donc ma première question, c'est de savoir, finalement, est-ce que c'est réglementé, la NAS. Donc c'est réglementé. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une privation de liberté ? Et auquel cas, quels sont les droits des manifestants pendant une NAS ? Est-ce qu'ils peuvent faire appel à des avocats, etc. ? Ça, c'est ma première question. Alors ma deuxième question, c'est sur l'illégalité de la déclaration, puisque donc vous précisez dans le rapport justement que l'obligation de déclarer une manifestation préalablement à son organisation est illégale. Pour autant, c'est une infraction. Quand on ne déclare pas une manifestation, c'est considéré comme une infraction et c'est inscrit dans le code pénal. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Est-ce que c'est légal ?
Alors, pour commencer sur la NAS, ça apparaît dans les textes sur le maintien de l'ordre. Et récemment, il y a eu un nouveau schéma national du maintien de l'ordre qui réaffirme que la NAS ou l'encerclement des manifestants est une pratique qui est utile. Donc, évidemment, une pratique qui est une entrave aux libertés, une privation de liberté, puisque les personnes ne peuvent plus circuler. Donc, selon le schéma national du maintien de l'ordre, c'est utile pour des fins de contrôle, d'interpellation, de prévention, la poursuite de troubles. Pour Amnesty International, c'est un usage qui est beaucoup trop large. C'est-à-dire qu'on peut envisager que la NAS soit utile dans certaines conditions, mais uniquement pour faire cesser des violences existantes, et en laissant de l'espace pour que les manifestants pacifiques puissent sortir.
D'accord.
Donc elle est utilisée de manière beaucoup trop large en France, ce qui est problématique parce que c'est une violation des droits des personnes qui sont nassées, qui manifestaient pacifiquement, parce que ça a aussi un risque de faire monter les tensions. C'est pas anodin de se retrouver bloqué, de pas savoir quand est-ce qu'on peut sortir. Souvent, on est face à des policiers qui ne répondent pas. qui donnent des informations contradictoires, donc ça crée des crispations aussi. Et puis, il y a aussi une pratique qui est aussi assez régulière en France. Alors, je ne sais pas comment ça se passe à Marseille, mais à Paris, on a souvent des cas de grandes masses où il y a des gaz lacrymogènes qui sont envoyés dans la masse. Donc là, on est sur deux pratiques tout à fait contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, on empêche les personnes de partir et en même temps, on envoie des gaz pour les disperser. Donc, ça crée aussi quelque chose d'assez chaotique et problématique en termes de droits humains.
Alors, à ce sujet, justement, donc, sur l'envoi de gaz lacrymogènes pendant les manifestations, donc on a eu malheureusement beaucoup de témoignages hein, sur cette pratique. Hein. Et justement, alors, ce qui se passe, c'est que les manifestants, pour se protéger des gaz lacrymogènes, ont du matériel, des lunettes, des masques parfois, pour préserver leur intégrité physique et leur santé. Mais pour autant, une loi en avril 2019 interdit la dissimulation du visage pendant une manifestation. Il y avait déjà une loi en octobre 2010 sous la présidence Sarkozy qui interdisait la dissimulation du visage sur l'espace public. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux lois? Finalement, qu'est-ce qu'elles visent l'une et l'autre? Et quelle est la conséquence pour les manifestants?
Alors, la première loi qui avait été votée sous Sarkozy, on l'avait critiquée hein, parce que Amnesty International défend la liberté des femmes de s'habiller comme elles veulent, comme elles le souhaitent, et c'est clairement une loi qui s'attaque aux niqabs. Pour nous, il y avait des risques d'application discriminatoire et c'était une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de religion.
Parce que ça visait les femmes voilées, en fait, c'est ça hein? Précisément.
C'était principalement l'enjeu, et pour nous, les femmes doivent pouvoir choisir leurs vêtements. Ensuite, sur la loi dite anti-casseur, qui a été votée en 2019, elle introduit une nouvelle interdiction de se dissimuler le visage, et là, c'est dans un contexte de manifestation, avec une différence, c'est une peine de prison. Et donc, il y a une interdiction extrêmement large de masquer le visage en manifestation. Il n'y a plus aucun sens en contexte de Covid, où on est tous obligés de porter un masque, hein, d'ailleurs, mais qui était déjà problématique avant, puisque on peut avoir plein de raisons tout à fait légitimes de se dissimuler le visage en manifestation. Ça peut être parce qu'on veut se protéger des gaz lacrymogènes, effectivement. Ça peut être parce qu'on veut porter un masque représentant le visage d'un homme politique pour exprimer une revendication. Ça peut être parce qu'on ne veut pas être reconnu par des caméras de télévision. Donc en fait, cette interdiction, elle est disproportionnée. Il y avait une loi assez similaire à Hong Kong, qui a d'ailleurs été censurée par la Haute Cour de justice de Hong Kong, parce que c'était une atteinte disproportionnée aux libertés publiques. Et donc nous, on demande que la loi française soit modifiée, parce que c'est une interdiction générale qui porte atteinte à nos libertés.
Pour revenir encore, parce qu'on n'a pas vu à fond cette histoire cette disposition en fait relative à l'obligation de déclarer les manifestations, quand des manifestations sont organisées sans déclaration, le risque, c'est que les organisateurs des manifestations soient tenus pénalement responsables et condamnés à des peines qui peuvent aller jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Et dans le rapport, vous précisez qu'en 2019, 42 personnes ont été déclarées coupables de ce délit. Alors, la question qui revient, c'est à qui revient la charge de la preuve? Parce que dans les témoignages que vous donnez dans votre rapport, des personnes sont arrêtées. Alors, j'ai envie de dire un peu au hasard, en tout cas, c'est une personne parmi d'autres, parce qu'elle prend le micro, parce qu'elle prend le mégaphone, etc., parce qu'elle a publié sur sa page Facebook un appel à la manifestation, enfin, elle a transmis l'info, et du coup, elle va être condamnée et considérée comme organisatrice de la manifestation. Est-ce que ça, c'est... Enfin, comment est-ce qu'on en arrive à de telles condamnations et sur la base de quelles preuves, surtout?
C'est un vrai problème. Il faut quand même commencer par dire que nous, on est contre le fait d'avoir des sanctions pénales pour organisation d'une manifestation non déclarée. Puisque en droit international, on n'a pas forcément à déclarer des manifestations. On peut comprendre qu'il y ait des formalités de déclaration pour permettre une organisation de la part des autorités. Mais il faut aussi qu'il y ait de l'espace pour des manifestations spontanées, des manifestations non déclarées. Et ça, c'est le rapporteur spécial des Nations Unies, c'est l'OSCE qui le disent. Donc, c'est vraiment encadré. Donc, la loi française, à ce titre, elle est complètement contraire au droit international. Et ensuite, dans la manière dont elle est appliquée, effectivement, il y a cet autre problème que comment décide-t-on qui est l'organisateur d'une manifestation, surtout dans des mouvements qui sont de plus en plus horizontaux, qui se veulent sans leader. Et on a plusieurs cas où les personnes sont interpellées, interrogées, parce qu'elles ont partagé des appels à manifester sur les réseaux sociaux, parce qu'elles ont pris la parole à la fin d'un rassemblement. Donc on a l'impression que c'est assez aléatoire. Donc à la fois, la loi française est problématique au regard du droit international, mais en plus, dans son application, il y a une part d'arbitraire.
Alors, est-ce qu'il y a eu des recours contre le gouvernement, contre la France, en fait, pour non-application ou mauvaise application de la Convention européenne des droits de l'homme, dont, enfin, qu'elle a ratifiée, en fait?
Alors, sur au niveau de la Cour de justice, enfin au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de recours sur cet angle-là spécifiquement. Ensuite, il y a régulièrement des procès. Je pensais notamment au fait à ce qui s'est passé après le premier confinement, où le gouvernement avait pris une interdiction générale de manifester, qui a été retoquée par le Conseil d'État parce que c'était disproportionné. Et aujourd'hui, malgré le confinement, on peut manifester. C'est une liberté fondamentale, donc il ne peut pas y avoir d'interdiction générale. Il faut trouver des solutions moins intrusives si c'est possible, donc des rassemblements dans le respect des règles sanitaires, etc. Donc il y a quand même des cours de justice qui veillent à ce que la France respecte ses engagements internationaux. Ensuite, c'est compliqué parce qu'il faut que des personnes portent plainte, il faut que ça remonte les différents tribunaux et cours de justice. Et donc, sur les obligations de déclaration, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de cas.
Alors, juste avant de passer la parole à Félix Tréguer qui est avec nous, donc vous avez justement parlé de cette notion de disproportionnalité, parce que c'est ça que vous remettez en question. Et surtout, ce que vous dites, c'est il faut que les mesures soient proportionnelles au cas en question. Donc voilà, la question c'est, est-ce que ça ne serait pas utile, en tout cas pour les manifestants, d'avoir une position très claire, en fait, parce que entre aujourd'hui... l'interdiction, en tout cas l'exigence de déclaration qui est dans le code pénal, donc qui est aujourd'hui finalement légale en France, mais vous dites c'est légal en France, mais c'est contradictoire avec la Convention européenne des droits de l'homme que la France a ratifiée. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas finalement revenir sur cette obligation de déclaration et donc à ce moment-là faire une action en justice pour que la position de la France soit claire et donc compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme?
C'est pas écrit dans la Convention européenne des droits de l'homme de cette manière-là. Ça fait partie des positions du rapporteur spécial des Nations Unies. Donc c'est une interprétation des conventions. Oui, effectivement, ça pourrait être utile de faire un recours. Ensuite, l'analyse des textes, elle est très claire. C'est-à-dire que d'un côté, il est dit qu'il n'y a pas à avoir d'obligation de déclaration. De l'autre, c'est des sanctions pénales pour non-déclaration. Donc il suffit de changer ce texte de loi. Et c'est ce à quoi on appelle avec Amnesty International. On a une pétition d'interpellation d'Emmanuel Macron pour demander de changer le cadre juridique et de le remettre en conformité avec le droit international.
Alors justement, on va terminer sur ce point. Donc en ce moment, il y a une pétition qui est sur votre site internet, c'est ça?
Oui, tout à fait. Il y a une pétition qui s'appelle « Manifestants, pas criminels ». En fait, dans notre rapport, on a listé toutes les législations qui étaient utilisées contre des manifestants pacifiques, notamment des manifestants qui étaient juste descendus dans la rue pour défendre des opinions et qui n'ont commis aucune violence. Et puis ça concerne aussi des journalistes, des street medics, des observateurs des droits humains. Et qui se sont fait prendre dans les mailles du judiciaire sur la base de lois qui étaient soit contraires au droit international, soit rédigées de manière très vague et utilisées de manière arbitraire. Et donc nous, on demande qu'il y ait un changement de pratique et de loi, et on a une pétition qui s'adresse à Emmanuel Macron pour qu'il y ait une réforme législative et un cadre juridique qui protège le droit de manifester pacifiquement en France.
Merci beaucoup Anne-Sophie Saint-Père d'avoir été avec nous. Gaëlle est toujours avec nous et puis on va maintenant avoir Félix Tréguer au téléphone. Est-ce que Félix nous entend?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Félix. Félix, vous êtes membre fondateur de la Quadrature du Net, chercheur en sciences sociales au CERI à Sciences Po. Est-ce que vous pouvez dire deux mots rapides sur la Quadrature du Net?
Oui, c'est une association fondée... il y a un peu plus de 10 ans pour défendre les libertés publiques dans l'environnement numérique.
Merci, c'est très rapide effectivement. Félix, est-ce que vous voulez réagir à ce que vous avez entendu, le témoignage de Gaëlle et puis l'échange avec Anne-Sophie Saint-Père?
Du coup, pour présenter un peu plus la Quadrature du Net, on est une association qui nous occupe beaucoup de questions liées à la surveillance des communications Internet, à la censure la censure d'Internet, le capitalisme de surveillance et plein de questions de ce type. Et c'est vrai que de plus en plus, on travaille sur l'espace public urbain et notamment l'occupation et l'occupation de l'espace public urbain à des fins d'activité politique. Et dans ce cadre, on a notamment lancé il y a quelques mois une campagne qui s'appelle Technopolis, sur le site technopolis.fr, qui vise à documenter justement les nouvelles technologies de maintien de l'ordre et de surveillance de l'espace public urbain, et pour tout cas de ce type, hein, qui font appel à des solutions de big data pour croiser des fichiers, de la vidéosurveillance automatisée ou des algorithmes entraînés à partir de techniques d'intelligence artificielle vont analyser automatiquement les flux vidéo. Dans tous ces projets qu'on cherche à documenter sur le territoire français, l'encadrement des manifestations est toujours central en fait dans les objectifs affichés par les promoteurs de ces technologies et de leurs usages policiers.
Alors justement, Gaël nous disait que la manifestation dont il parlait tout à l'heure était surveillée par un drone. C'est légal ?
Alors non, ce n'était pas légal à la date à laquelle avait lieu la manifestation. Nous, on a, à la Quadrature du Net, avec la Ligue des Droits de l'Homme, au printemps dernier, dans le cadre du premier confinement, on avait déjà fait un recours en attaquant la préfecture de police de Paris et l'usage des drones pour assurer le respect des règles de distanciation sociale. En fait, il faut savoir que depuis des années, depuis que l'usage des drones s'est généralisé en France, notamment pour la surveillance des manifestations, ça a été fait sans aucun cadre juridique spécifique. Et donc, en tant que tel, c'est illégal. C'est ces arguments qu'on a fait valoir avec succès devant le Conseil d'État au printemps.
D'accord.
Et qui fait que il n'y a toujours pas de cadre juridique adopté. C'est notamment l'enjeu de la loi sur la sécurité globale dont on va parler. Mais à ce jour, et depuis le mois de mai que cette décision du Conseil d'État est tombée, tout usage policier des drones en France est illégal. Et contraire à cette décision, même si elle s'appliquait à un cas d'espèce bien particulier, et à la préfecture de police de Paris au premier chef. Mais ça vaudrait, enfin, les conclusions juridiques valent pour tout usage policier des drones. Et donc, à la date de la manifestation à laquelle prenait part Gaël, l'usage des drones par la police nationale marseillaise était illégal.
Alors, le 6 novembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi, qui est le projet de loi sur la sécurité globale, que vous avez cité tout à l'heure, et donc contre laquelle, évidemment, vous menez une action, hein, il me semble, en ce moment, vous me direz. Et selon ce projet de loi, selon l'association La Quadrature du Net, ce projet de loi conduit à dissuader la population de manifester. Et Claire Hédon, qui est donc la défenseure des droits, a rendu un avis le 5 novembre au sujet de cette loi en disant « Cette proposition de loi soulève des risques considérables d'atteinte à plusieurs droits fondamentaux, notamment au droit à la vie privée et à la liberté d'information. » Alors, en quoi est-ce que cette loi porte atteinte à la liberté de manifester et aux droits fondamentaux en général ?
Alors, déjà, je pense que pour resituer cette loi, il faut rappeler qu'elle est donc présentée par des députés de la majorité En Marche, notamment l'un des anciens patrons du RAID, qui est un député LREM aujourd'hui.
Le RAID, vous pouvez redire ce que c'est?
Oui, le RAID. C'est donc une des unités d'intervention d'élite de la police et de la gendarmerie nationale. C'est une loi qui répond à des demandes des milieux de la sécurité, des milieux de la police et de la gendarmerie, du ministère de l'Intérieur de manière générale, et aussi des demandes des industriels et des acteurs privés de la sécurité qui demandaient tout un tas d'aménagements réglementaires. Mais parmi les dispositions qui nous inquiètent le plus et qui font le plus débat, alors qu'il y a notamment l'article 24 de la proposition de loi qui concerne l'interdiction de diffuser des images permettant d'identifier des policiers. Donc ça, c'est la disposition la plus contestée parce que elle intervient dans une séquence où la dénonciation des violences policières est devenu un sujet majeur, notamment depuis les manifestations organisées dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes à partir de la fin de l'année 2018. Et donc typiquement, tous les documents saisis par des manifestants documentant les abus policiers, leur diffusion serait passible de sanctions pénales en vertu de cet article. Et donc c'est une volonté en fait du pouvoir et à la demande des syndicats policiers d'abriter en fait les forces de l'ordre de toute dénonciation citoyenne ou même journalistique d'abus et de violences policières. Donc ça, c'est la disposition qui est la plus controversée. Nous, on s'intéresse aussi beaucoup et on souligne aussi l'existence d'autres dispositions en fait qui contribuent en fait à aggraver on va poursuivre, disons, les stratégies déjà en œuvre depuis notamment la loi anti-casseurs dont vous parliez tout à l'heure d'avril 2019, qui interdit le fait de dissimuler le visage, qui vise aussi à interdire de manière administrative le fait d'assister. Enfin, il y avait donc la possibilité pour les préfets d'ordonner l'interdiction donc administrative d'assister à une manifestation. Ça, ça avait été censuré par le Conseil constitutionnel in extremis. Mais en tout cas, il y a cette stratégie d'accroître la mise sous surveillance des manifestations. Et donc, dans cette proposition de loi sur la sécurité globale, il y a deux autres dispositions qui sont très importantes, qui concernent l'usage des caméras piétons. Donc, ce sont ces caméras de surveillance placées directement sur l'équipement et donc l'uniforme des forces de l'ordre, qui permettent d'enregistrer des images. Ça a été légalisé en France en 2016. Et là, la loi permet désormais de transmettre ces flux vidéo en temps réel au centre de commandement, ce qui permettra notamment de croiser ces flux vidéo avec des fichiers de police, notamment le fichier TAJ, qui concerne des informations sur 19 millions de personnes en France, donc tout type de personnes qui a pu avoir affaire à la police. Il y a 8 millions de photographies de visage dans ce fichier, et ils sont d'ores et déjà utilisés pour identifier des suspects ou des personnes présentes en manifestation. Il suffit en fait de comparer une image prise en manifestation d'un visage de manifestant avec cette base pour voir s'il y a une concordance et si on a déjà en fait des informations et une photographie de cette personne dans la base pour ensuite l'identifier. Il faut savoir que parce que c'est en fait déjà un usage de la reconnaissance faciale qui est légal mais qui est très peu connu et qui il faut savoir que sur le fichier TAJ, il y a déjà eu en 2019 près de 300 000 requêtes visant à identifier, enfin, par comparaison faciale, donc à identifier une personne en comparant une photo qu'on soumet à l'algorithme à ce fichier. Et donc là, l'enjeu, en fait, c'est clairement, à la fois avec les caméras piétons et les drones, c'est l'autre disposition très importante aussi de cette proposition de loi, légaliser donc l'usage des drones dont le Conseil d'État nous a rappelé qu'il était en l'état pas du tout encadré, donc illégal. Les drones, ils sont très utilisés aussi pour avoir opéré une surveillance aérienne des manifestations, de la même manière que certains hélicoptères peuvent aussi permettre d'opérer cette surveillance aérienne. Et en fait, c'est mis bout à bout, ces dispositions assurent une surveillance à 360 degrés, en fait, des manifestations avec la possibilité d'identifier les gens. On sent bien qu'il y a une volonté de mettre sous une surveillance totale les manifestations, et de remettre en cause toute possibilité de participer de manière anonyme à un événement
à des manifestations sur la voie publique. Merci beaucoup Félix, je suis désolée, mais alors on a dépassé le temps, hélas. Et juste, est-ce que vous pouvez donner un lien sur votre site internet, parce que j'imagine qu'on peut y trouver plus d'informations.
Oui, bien sûr. Donc on a mis en place une page d'action, effectivement, qui permet notamment de joindre ses représentants au Parlement pour s'opposer à cette proposition de loi. Et donc, c'est sur le site laquadrature.net.
Merci beaucoup, Félix. Merci, Gaël. Merci, Anne-Sophie Saint-Père. Et merci à Papy, à la technique. Merci.
Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit.